Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface, Les Caprices de Thérèse. Dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Et au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé, aujourd'hui, nous allons commencer par le grand retour de Mariée au premier regard qui revient ce soir sur M6. L'experte Estelle Dossin sera notre invitée exceptionnelle pour en parler dans une poignée de secondes. Notre coup de cœur ciné aujourd'hui consacré au film Chers parents qui sortira mercredi au cinéma. Cette occasion, Emmanuel Patron, le réalisateur, Armel Patron, la co-scénariste, ainsi que Pauline Clément et André Dussolier seront nos invités exceptionnels pour en parler. Coup de cœur télé également consacré à l'art du crime qui revient ce soir pour une 9e saison inédite sur France 2. À cette occasion, une des guests bien connue des fans de Ici Tout Commence, Florence Coste, qui joue Laetitia Rigaud dans Ici Tout Commence, sera en guest et jouera Aline Costa dans ce film. Elle sera avec nous tout à l'heure. Et puis en fin d'émission, nous aurons également le plaisir de recevoir Amélie Jolivelle. C'est la Veto qui a fait l'objet du reportage Veto de campagne qui sera diffusé demain soir à 21h05 sur France 5. Vous l'avez compris, on va pas chômer encore aujourd'hui. On démarre tout de suite par le grand retour de Mariée au premier regard.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé, vous le savez, nous sommes des grands fans. Et oui, l'émission est de retour et en plus une semaine plus tôt que d'habitude grâce au foot et à la Coupe du Monde qui prendra la place après. Mais en attendant, quel grand bonheur de revoir Mariée au premier regard dès ce soir à 21h10 sur M6. Et nous avons une des psychologues de l'émission qui est avec nous, Estelle Dossin. Bonjour Estelle.
Bonjour Alain, je suis très très contente de vous revoir enfin.
Ah oui, moi aussi, je suis très content de vous avoir à nouveau. Et puis en plus, on aura un double cadeau puisque lundi prochain, c'est Marie Tapernoux qui sera notre invitée également. On n'a pas fini d'en parler de Mariée au premier regard. C'est une émission qu'on aime, qu'on adore. Est-ce que vous comprenez, en tout cas Estelle, cette addiction que peuvent avoir les spectateurs justement à cette émission?
Mais absolument, parce que c'est une expérience du réel. Et en fait, on se pose tous la question de ce qui se passe chez les autres quand chez nous, ça fonctionne pas trop. Donc la question de l'amour, c'est un mystère, c'est un marronnier de psychologue depuis très longtemps. Et c'est quelque chose qui est plus fort que soi. Quand on n'est pas très heureux en amour, on se dit « mais comment ça se fait que j'y arrive pas ?» et « comment ils font les autres ?» Et en fait, la force de l'expérience Mariée au premier regard, c'est justement d'être particulièrement identifiant. Comme c'est pas du tout joué, on marie des gens qui ressemblent à tout le monde, les téléspectateurs peuvent s'identifier, projeter, apprendre pour eux, pour leur vie future ou même pour leur couple.
Alors il est vrai qu'Estelle, c'est un anniversaire quand même cette année, 10 ans, l'émission a 10 ans, c'est sa 10e saison, avec évidemment plein de surprises qu'on va vous dévoiler dans quelques instants, mais en tout cas c'est une longévité qui commence à être exceptionnelle pour cette émission.
Moi, je ne suis pas du tout surprise, en fait. C'est sûr que la première année, tout le monde a pensé que ceux qui s'étaient inscrits étaient complètement cinglés. Et oui, c'est une expérience complètement folle. Mais à partir du moment où les gens ont compris la bienveillance du système, tout ce qu'ils pouvaient en tirer de positif, forcément, tout le monde a envie de s'inscrire. C'est quand même pas anodin que 25 000 personnes s'inscrivent tous les ans et qu'on totalise environ 3 millions de téléspectateurs chaque lundi soir.
Ouais, c'est totalement dingue. Et puis c'est vrai que bah, nos expertes sont toujours là pour aider nos célibataires en quête de l'amour sincère et durable. Et il est vrai que bah, nos couples qu'on va découvrir ce soir ne vont pas échapper à la règle. On va découvrir Julie et Mathieu ainsi que Laurie et Antonin qui cherchent l'amour évidemment avec leur femme. Il va y avoir beaucoup de surprises pendant cette saison puisqu'il va y avoir deux sœurs qui vont se marier en même temps.
Absolument.
Ça c'est dingue, ça a dû être un challenge hein, quand même pour vous les expertes.
Alors oui et non. Pour nous c'est tout à fait familier, deux sœurs qui veulent se marier pour la simple et bonne raison que tous les ans on a des fratries qui s'inscrivent, des groupes d'amis, des membres de la même famille. Donc ça on est habitué à ce genre de demande. En revanche, ce qui était inhabituel c'était leur demande, un peu folle, de se marier le même jour. Donc vous voyez, nous aussi on a été mise au pied du mur, on a été poussé un peu dans nos retranchements, mais l'argument était tellement désarmant parce que l'une des sœurs nous a dit « Mais en fait, Estelle et Marie, si on se marie pas le même jour, moi, je risque de me marier un jour et si ma sœur se marie le lendemain, je serai en voyage de noces, je pourrai pas assister au mariage de ma sœur. Et ça, je préfère renoncer à l'expérience plutôt que de me priver de ce bonheur. » Donc là, on s'est dit, elle a entièrement raison et on a réfléchi à la faisabilité de la chose parce que, évidemment, c'est deux sœurs qui se marient, mais il fallait aussi que les maris soient informés. Donc là, pour nous, ça a été plus un challenge en termes d'organisation. On s'est longuement concerté pour voir si c'était tout à fait envisageable et c'est uniquement à partir du moment où on a su que c'était tout à fait envisageable qu'on a accepté. Sinon, malheureusement, on aurait renoncé et peut-être qu'elle aussi aurait renoncé.
Alors, cette 10e saison vous attend effectivement avec beaucoup de surprises et surtout aussi pour un des couples, on dira pas lequel, évidemment, un taux de compatibilité record de 90%.
Eh oui.
Alors ça, c'était jamais arrivé.
Alors non, ça n'était jamais arrivé. On était absolument bluffés, Marie et moi. Pour être tout à fait sincère avec vous, on a eu un double effet qui se coule, comme on dit. On s'est dit, waouh, c'est super. Et en même temps, oulala, j'y vais, mais j'ai peur. C'est pour ça qu'on ne l'aura pas annoncé, parce qu'on s'est dit, c'est qui tout double? Un tel taux de compatibilité, soit ça va leur faire peur, et ils vont complètement baisser les bras, soit ça va les mettre dans une position très attentiste et très passive, ouais, en se disant, bah, si on est si complémentaire, si compatible, eh ben on n'a aucun effort à faire, tout va venir à nous. Et ça, la passivité, Alain, c'est le danger du couple.
Ouais.
On ne construit pas une relation amoureuse quand l'un ou l'autre ou les deux sont passifs. Pour construire l'amour, pour trouver l'amour, pour faire sa relation, il faut y aller, il faut agir.
On peut parler de l'algorithme aussi, mine de rien Estelle, parce qu'il y a un algorithme cette année qui va détecter l'attraction physique que peuvent avoir deux couples. Et il y a des couples là aussi qui vont bénéficier grâce à cet algorithme d'une forte attractivité physique possible lors de leur rencontre.
Absolument, alors on est très très heureuse de ça. C'est une nouveauté sans en être une. Alors je peux en parler un peu, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. En revanche, l'attractivité physique a toujours été une variable dans la constitution du protocole de compatibilité. Mais cette année, on a décidé d'ajouter des variables à cette variable de manière à affiner l'algorithme pour augmenter les taux d'attractivité et avec le truchement des pondérations, avoir des résultats plus fins que ce qu'on avait par le passé.
On attend de voir ça avec grande impatience. Alors, Estelle, il y a aussi un livre qui vient de sortir en auto-édition chez Amazon notamment. Et c'est votre tout nouveau livre, Estelle.
Alors, le livre s'appelle « Tu mérites mieux ». Le sous-titre, c'est « 100 leçons pour te le prouver ». C'est un livre que j'ai décidé d'écrire, enfin que j'ai commencé à écrire il y a très longtemps, quand j'ai commencé ma carrière. Je me suis rendu compte que souvent, les personnes étaient confrontées à des situations émotionnelles compliquées et que souvent, c'était un peu les mêmes situations dans lesquelles j'étais amenée à prodiguer les mêmes conseils et les mêmes mises en garde et les mêmes encouragements. Je me suis dit, il serait peut-être temps de mettre ces conseils-là, ces mises en garde, ces encouragements au profit du plus grand nombre en les compilant dans un livre. Parce que au final, ce que les femmes veulent, c'est plutôt destiné aux femmes, mais j'ai aussi des hommes qui l'ont acheté et qui m'ont dit on peut très bien s'y retrouver. Parce qu'au final, quand on n'est pas heureux, on finit toujours par se dire qu'on mérite mieux. Et souvent, c'est tout à fait vrai.
Oui, parce que c'est vrai que c'est un guide pratique en 100 leçons pour sortir de la manipulation, poser des limites, guérir des blessures. C'est assez universel, que ça soit pour homme ou femme, pour le coup. Donc le livre peut s'adresser
absolument
totalement aux deux.
Absolument, la famille, les amis, le travail, la toxicité, la dépendance affective, le manque de confiance en soi, le fait de ne pas arriver à s'extraire de son milieu financièrement ou culturellement. C'est très compliqué, tout le monde a ses obstacles. Parfois, ce sont des obstacles extérieurs et parfois, ce sont des obstacles qu'on a à l'intérieur de soi. On a besoin d'une petite voix qui nous dit « Vas-y, c'est OK. Pourquoi ? Parce que tu mérites mieux. »
Eh bien voilà, c'est bien dit. En tout cas, le grand retour de Marie au premier regard, c'est ce soir. C'est à partir de 21h10 sur M6 pour découvrir nos 16 nouveaux célibataires. Vous en découvrirez déjà au moins 4 ce soir, Julie et Mathieu ainsi que Laurie et Antonin dans cette 10e saison qui s'annonce anniversaire. Merci infiniment Estelle. Et puis
merci Alain.
Franchement, on se dit à très très bientôt, j'espère. Et puis pourquoi pas un jour vous accueillir pour dédicacer votre livre. Nous, ça serait grand plaisir qu'on vous accueillerait dans notre région.
Ah mais absolument, j'y vais régulièrement et je serai ravie de vous revoir Alain, je vous fais un gros bisou et soyez très nombreux ce soir, on vous attend Marie et moi à 21h10 sur M6.
Et nous on attend Marie Tapernou lundi prochain à partir de 21h10 dans Marie au premier regard aussi, mais elle sera aussi dans Chut, on écoute la télé puisqu'elle sortira aussi un livre le 5 mars, on en parle avec Marie lundi prochain. Merci infiniment et à très bientôt. Merci Estelle.
À bientôt.
Tout de suite la bande-annonce de Marie au premier regard.
Marie au premier regard, en fait c'est 10 ans.
J'ai 33 ans, j'arrive pas à rencontrer quelqu'un. C'est dur.
Moi, je vais être avec la bonne personne.
On a tous quelqu'un de fait pour soi.
Regarde-moi ça, c'est incroyable.
On a mesuré la possibilité de coup de foudre au premier regard.
Waouh.
Là, il tombe amoureux rien qu'en la regardant.
Deux âmes sœurs en fait qui se sont trouvées.
J'espère que ça s'arrêtera jamais.
Nouvelle saison de Marie au premier regard, lundi 23 février à 21h10 sur M6.
Allez, à tout de suite pour notre spécial Chers parents, André Dussolier, Pauline Clément et les patrons débarquent dans Chut, on écoute la télé. À tout de suite.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. À tout de suite.
Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
T'as touché le fond ton jean.
La machine à penser est cassée. C'est l'histoire des enfoirés.
Les restos du cœur serrés.
Les hirondelles bénévoles. Mais jamais assez. Si tu crois qu'on a trop.
Tout se cache, quand tout
soif et faim. Quand tout se casse,
tout se casse.
Quand tout se casse, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un? Quand on est, est-ce qu'on peut sauver quelqu'un?
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Allez, notre coup de cœur ciné est consacré à Chers parents qui sort mercredi dans les salles. On a beaucoup de chance, on a toute une partie de l'équipe aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Et oui, c'est les patrons. Ils sont là aujourd'hui, Armel et Emmanuel. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. C'est une adaptation d'une pièce que vous avez peut-être vue sur France 4 en janvier dernier. Chers parents était une pièce de théâtre à grand succès et qui là a été adaptée en film. Première question que j'ai envie de poser à co-scénariste, Armel. Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est plus compliqué justement qu'une histoire originale que de venir ici adapter une pièce de théâtre qui existe déjà?
C'est beaucoup plus difficile. La pièce de théâtre, en fait, on l'a écrite sans aucune pression. On a écrit ce qu'on avait envie d'écrire avec une très très grande liberté. Et ensuite, vu le succès de la pièce, quand on a commencé l'adaptation pour le cinéma, ça a été un travail extrêmement compliqué qui a duré un an. Il a fallu en fait faire un peu le deuil de ce qui marchait très très bien au théâtre pour avoir une écriture pour le cinéma, trouver des idées pour sortir de la maison, qu'on ne reste pas dans du théâtre filmé dans un huis clos, et trouver un nouveau code narratif en fait pour le cinéma, inventer d'autres personnages. Et en fait, le film est assez différent de la pièce, en tout cas dans la fin. On a gardé l'âme de la pièce de théâtre, mais voilà, on est allé encore beaucoup plus loin et c'est très très compliqué.
Emmanuel, qui joue le rôle que Arnaud joue dans le film, a laissé sa place ce coup-ci. Est-ce que c'est simple ou pas?
C'était simple dans la mesure où moi je ne voulais pas jouer et réaliser, c'était mon premier film, je voulais pas être devant et derrière la caméra, et après ça a été très facile de laisser le... Pour moi un personnage ça n'existe pas vraiment, ça existe que par rapport à l'acteur qui va l'incarner, donc Pierre, le frère aîné, tout d'un coup c'était Arnaud, et Arnaud était vraiment l'acteur idéal pour jouer ce rôle, et ça a été un grand plaisir de voir comment il s'est emparé du personnage, ce qu'il en a créé de très différent de moi aussi. J'ai même repiqué des choses parce qu'il était un garçon très talentueux, et comme j'ai jouer le rôle après au théâtre, je lui ai piqué des petits trucs, mais je lui ai dit, hein, il était d'accord. Mais c'était assez facile et ça m'a pas du tout gêné quand je réalisais de voir Arnaud jouer ce rôle que je connaissais par cœur, parce que j'ai joué plus de 400 fois. Mais ça m'a pas du tout gêné, au contraire, c'était assez jubilatoire de voir comment lui voyait des choses que moi j'avais pas vues et voilà, comment il arrivait à rentrer dedans et à le rendre très très vivant.
Quand on est comédien, passer derrière la caméra, c'était quelque chose que tu avais envie depuis longtemps, Emmanuel?
Oui, ça fait très longtemps. Ça fait 30 ans que je suis comédien, donc les plateaux, je connais bien. Et je me suis toujours intéressé à la technique. Et j'ai toujours eu, ça fait 20 ans que j'ai envie de réaliser, que je m'intéresse à la réalisation. Et là, c'était un peu le moment idéal. Avec Armel, on écrit beaucoup de scénarios qu'on laisse à des réalisateurs, en général, réalisatrices, réalisateurs. Et là, sur ce coup-là, cette pièce qu'on a écrite ensemble, qu'on a mis en scène, que j'ai joué, là, c'était un peu l'occasion pour, en effet, passer derrière la caméra. Et les producteurs, que ce soit Yves Darondeau à Bonne Pioche ou les producteurs d'SND, ont été d'accord très, très vite et m'ont fait confiance et je les remercie parce que c'était quand même assez important quand même de me laisser gérer ce film avec André Dussolier, Miu Miu Ducré, avec Pauline Clément, Thomas Olivérès, c'est des grands acteurs quoi. Et ça a été une expérience que je souhaite renouveler, ça a été l'année la plus belle de ma vie.
Alors le couple ce coup-ci de parents est joué par André Dussolier, Miu Miu, c'est Alice et Vincent Gauthier qui vont convoquer leurs trois enfants. Alors évidemment dans leur tête aux trois il va se tout se passer, maladie incurable, c'est quasiment la fin de leur vie pour eux, parce qu'ils imaginent évidemment le pire. Mais bonne nouvelle, les parents ont touché le jackpot. Sauf que problème, ils ont touché le jackpot. Pas en famille, que deux pour eux. Et évidemment, les enfants ne vont pas voir ça forcément d'un bon œil au départ, et ça va donner lieu vraiment à des scènes mais savoureuses tout au long du film. On va voir en tout cas comment Arnaud Ducré, Thomas Olivérès et Pauline Clément vont réagir avec leurs trois personnages à cette annonce subite. Comment on peut réagir et quelle implosion ça peut créer aussi dans une famille, parce que c'est ça aussi.
Alors en fait, on s'est inspiré de notre famille avec Emmanuel pour écrire la pièce de théâtre au départ. On est une fratrie de quatre quatre enfants. On a des parents qui ressemblent beaucoup aux parents de la pièce qui étaient dans l'humanitaire. Voilà, et on a eu la chance d'avoir une enfance très heureuse. Et on s'est dit un jour, mais qu'est-ce qui ferait qu'on puisse s'engueuler? Qu'est-ce qui ferait que toute cette harmonie que mes parents, enfin que nos parents ont réussi à créer entre nous, nous six en fait, et après avec les conjoints, mais qu'est-ce qui ferait qu'un jour ça puisse exploser? La première réponse a été l'argent.
Non mais c'est vrai, c'est, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, alors mais des fois cette phrase peut être complétée quoi.
Bah, et t'imagines quand on n'a pas de l'argent, c'est comme ça. Non mais oui, l'argent fait pas. En fait, là, nous, on raconte vraiment le fait que je pense qu'on n'est pas du tout prêt à recevoir une telle somme d'argent et qu'en effet, l'argent peut rendre fou. Et c'est ce que craignent les parents et c'est ce qu'on, sans aucune morale dans l'histoire quand même. Mais on raconte quand même l'histoire de personnes qui deviennent complètement dingues parce que l'argent, c'est le pouvoir et le pouvoir rend fou. Donc voilà, c'est un peu ce qu'on raconte avec beaucoup d'humour et d'amoralité, de cynisme et d'humour noir dans ce film. Et c'est en effet comment cette famille, mais qui s'aime comme toutes les familles peuvent s'aimer. C'est pas des caricatures, c'est une famille assez iconique, avec une famille normale qui s'aime énormément et tout d'un coup, en fait, l'histoire de chers parents, c'est tout allait bien dans cette famille jusqu'au moment où ils sont devenus riches. Et là, ça a commencé à mal se passer.
Oui, parce que c'est vrai que les enfants, en fait, les parents ne vont pas tout dévoiler, bien évidemment, mais les parents comptent bien en faire quelque chose de cette somme. Et justement, les enfants sont en train de réaliser que même du côté héritage, il y aura peut-être plus rien. Et c'est justement ça qui est très très drôle. On va pas dire évidemment ce qu'ils comptent en faire, mais vous allez voir qu'ils ont des idées bien arrêtées, ces parents-là. Et à la fois, on s'attache, mais ça va faire devenir fou carrément ces trois enfants qui vont littéralement péter un câble, et c'est ça qui est très drôle, parce que Thomas, Arnaud et Pauline, mais ont dû vous faire rire tous les deux quand vous étiez derrière la caméra, mais ça a dû être jouissif, quoi.
Oui, c'est extraordinaire. Alors déjà, on était habitués au rire au théâtre, et à une autre fratrie, mais là, de les voir, et puis en plus avec les nouvelles scènes qu'on a rajoutées, de les voir tous les trois, et ça a été une évidence dès le premier jour de tournage. Il y avait une fratrie, il y avait quelque chose entre eux, on sentait l'angoisse au départ, puis tout ce qui va se passer ensuite, mais c'est vrai qu'il y a plusieurs moments où on rigolait, même Emmanuel, à un moment donné, on a dû couper parce qu'il riait trop fort derrière la caméra, donc non, c'était extraordinaire.
Et vous allez voir que parmi les enfants, c'est peut-être celui ou celle dont on s'attend le moins qui va peut-être péter le plus un câble. Et c'est ça qui va être encore très très drôle, justement. Quels sont les meilleurs moments de tournage derrière la caméra pour toi, Emmanuel?
Tous les jours, c'était quand même assez exceptionnel. On a tourné en 23 jours, ce qui est rapide. Mais chaque journée était différente. J'avais demandé aux acteurs de connaître le texte, tout le film par cœur, en entier. Parce qu'on faisait des scènes de 8 minutes, 7, 8, 9, 10 minutes. Et j'avais deux caméras et je voulais absolument que les acteurs restent dans l'énergie du jeu et jouent entre eux. Et c'est ce qui leur a plu d'ailleurs. C'est ce qui marche aussi dans le film. C'est que ça joue vraiment. C'est vraiment un film d'acteurs. Ça joue entre eux. Parce que je les coupais pas en général au cinéma. On fait une scène, ça dure trois phrases. On coupe, on change, on fait la lumière, ça dure un quart d'heure, etc. Donc, on est tout le temps interrompu. Là, ils jouaient dans la continuité. Donc, en fait, ça a été de découvrir des scènes, que ce soit les scènes des scènes de comédie ou les scènes plus dramatiques, parce qu'il y en a aussi. Toutes les scènes d'émotion étaient assez bouleversantes, parce que ces acteurs-là qu'on a choisi, ces acteurs, c'est des grands acteurs, mais ce ne sont pas des acteurs uniquement de comédie. Ce ne sont pas des comiques. Ce sont des grands acteurs. Et donc, ce qui nous intéressait, c'est que la comédie vienne des situations, des dialogues, et surtout pas du jeu. Et ils sont sincères dans leur travail, et c'était un bonheur de tous les jours. Il y a pas de scène en particulier, mais c'était une découverte et voilà, assez formidable.
On va en parler justement avec André Dussolier et Pauline Clément dans quelques instants. Arnaud Ducré, qui pouvait pas être là, on l'embrasse très très fort, hein, c'est un habitué de l'émission. Et je sais qu'il était très heureux de retrouver André, en tout cas après Adopte un Veuf, où il s'était déjà bien marré. On va continuer à en parler, chers parents, ça sort mercredi au cinéma, on va écouter la bande-annonce. Merci Emmanuel, merci Armel, merci les patrons, vous êtes vraiment les patrons du cinéma, mercredi, hein, n'est-ce pas?
Merci infiniment, merci, merci.
À bientôt.
Merci, à bientôt.
On arrête de s'inquiéter, ils vont peut-être très bien.
S'ils allaient très bien, je vous aurais dit, les enfants, on va très bien. Pas, venez au plus vite, on a quelque chose de très important à vous annoncer.
Salut les enfants!
On est rentrés!
Bon, dites-nous, qu'est-ce qui se passe?
On a gagné à la loterie.
On a gagné à la loterie, quoi!
On a gagné à la loterie.
Ben, oui, 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 pardon. Oui.
Juste, vous avez l'intention de nous en donner un peu, mais même un tout petit peu?
Non. Ah bon?
Bah non.
Allez, on continue notre spécial Chers parents, chose promis, chose due. Il est revenu avec nous. André Dussolier est là. Bonjour André.
Bonjour, bonjour à
tous. Merci d'être avec nous. Pauline Clément va nous rejoindre aussi. Dans quelques instants, on va parler de Vincent Gauthier. On a planté un peu le décor avec Armel Emmanuel. Chers parents sort mercredi au cinéma. Et puis j'imagine peut-être le bonheur d'avoir retrouvé Arnaud Ducré aussi après D'Optin Veuf.
Absolument. Ouais, ouais, j'adore Arnaud qui a vraiment un sens de la comédie, du jeu. J'étais content qu'il fasse mon fils aîné parce que dans D'Optin Veuf, il faisait c'était un fils adopté presque, il était dans un registre plus timide, tandis que là il impose sa force, sa loi, son dynamisme, mais avec beaucoup de finesse, et j'aime beaucoup Arnaud.
Alors, André, Vincent et Alice touchent le pactole. Tout se gâte, évidemment, quand les enfants sont convoqués en urgence. Eux croient que c'est les derniers jours de leurs parents. Que se passe-t-il? Eh bien non, on va juste leur annoncer que les parents ont touché le jackpot. Mais les parents ont touché le jackpot, eh oui. Pas la famille.
Eh oui, voilà, c'est la grande différence. C'est là que on pourrait penser que le drame commence. Non, c'est une comédie, évidemment, c'est pas un film à thèse. Mais l'argent, quand ça arrive, c'est réjouissant, évidemment, mais ça peut déstabiliser toute une famille entière, et chacun va se révéler, que ce soit les parents ou les enfants, qui sont trois, ils vont se révéler à la faveur de cet événement un peu extraordinaire qui arrive, auquel tout le monde va pouvoir s'identifier. C'est ça qui est réjouissant quand on voit le film au milieu du public. Tout le monde reconnaît un peu ses propres réactions, tous les déchirements de la famille, mais tout ça est écrit par Emmanuel et Armel Patron de façon drôle, quoi, comique. Tout le monde s'y retrouve et tout le monde est réjoui.
Vous aviez pu voir la pièce de théâtre ou pas?
Oui, je suis allé. Enfin, j'y suis allé parce que j'étais moi-même au théâtre, donc j'y suis allé quand Emmanuel Patron m'a proposé de jouer le rôle au cinéma, et donc je suis allé voir la pièce jouée par Frédéric Tiremont, Bernard Allan, que je connais très bien puisqu'on est de la même génération, et donc c'était formidable d'être au milieu de la salle, entouré de gens qui riaient ici ou là, pas forcément même réplique, moi chacun s'identifiait, se reconnaissait, c'était vraiment. Et puis bon, voilà, j'ai reconnu la qualité de l'écriture, j'ai participé, c'est une pièce qui a été joué 400 fois pendant 4 ans, enfin bon, qui a un grand succès, et voilà, elle a été convertie au cinéma, mais ce qui est bien, c'est que Emmanuel Patron a vraiment, ils sont allés encore plus loin dans l'adaptation cinématographique que la pièce, quoi. C'est-à-dire qu'on sort de l'univers clos du théâtre pour aller à l'extérieur, mais pour faire monter un petit peu les enchères et aller dans une sorte de d'immoralité réjouissante.
Alors c'est vrai qu'il y a un dynamisme dans le film qui est dingue, qui est apporté évidemment par les trois enfants et par ce couple de parents Alice et Vincent. Moi j'ai l'impression de vous avoir vu dans beaucoup de comédies justement dynamiques, avec beaucoup de sens aussi malgré tout, même si on a été bercé tous autant qu'on est par votre cinéma André, depuis Trois Hommes et un Couffin. Il y en a tellement eu depuis, mais il y a eu énormément, on disait Adopte-un meuf il y a quelques instants, mais c'était aussi une comédie très rythmée. Est-ce que ça c'est un critère de choix dans les rôles qu'on vous propose?
Allez, la comédie, vraiment. Moi, j'ai commencé par la comédie quand on était au conservatoire. Je passais des comédies avec Nathalie Baye, avec Villeray, avec. J'adore la comédie, quoi. Parce qu'évidemment, jouer des scènes de comédie, on a tout de suite la réponse du public. On l'entend rire, on l'entend se réjouir, même de ce qu'on dit ou de ce qu'on vit. Et la comédie, on a envie. Mais c'est vraiment. Faut qu'elle soit de qualité, bien sûr. Faut que tout le monde puisse s'identifier au thème, au sujet, au personnage. Donc, c'est plutôt rare, les bonnes comédies. Mais quand elles sont réussies, alors c'est vraiment agréable pour un acteur, bien sûr, parce que la réponse est immédiate de la part du public, que ce soit au théâtre ou au cinéma, où j'ai eu la chance de voir Chers parents au milieu du public.
Ouais, c'est vraiment chouette de voir les retours du public, parce que c'est vrai que quand on est au théâtre, on les a immédiatement, le retour du public, mais au cinéma, c'est un peu plus abstrait, et les avant-premières, rien de tel pour ça.
Ben oui, parce que c'est frustrant au cinéma. Bon, on joue la partition avec beaucoup de vérité, mais on est entre nous et avec les techniciens qui sont chacun à la tâche qu'ils doivent remplir. Donc, du coup, on n'a pas forcément les rires à ce moment-là. Et donc, une fois que le film est monté et qu'il existe, on n'a qu'une hâte, c'est de se retrouver au milieu du public, de la salle, dans la salle, pour voir si ça fonctionne. Mais comme on a confiance, et dans le texte, et dans les personnages, et dans ce qu'on dit, et dans ce qu'on joue, évidemment, il peut y avoir des bonnes surprises. C'est-à-dire que les gens ne rient pas forcément là où il était prévu qu'ils rient. Il peut y avoir des moments inattendus. C'est ça aussi que la différence entre le cinéma et le théâtre. C'est-à-dire que le cinéma, la caméra peut se balader. Au théâtre, c'est le spectateur qui fait sa propre mise en scène. Mais au cinéma, bon, le metteur en scène a choisi d'aller sur un personnage qui parle pas, mais qui a une réaction très éloquente, ou enfin voilà. Il y a tellement des diverses sources source de, d'amusement dans ce film-là, que c'est tellement quelque chose où tout le monde peut s'identifier, se reconnaître et s'amuser des réactions de chacun.
Alors avant que Pauline débarque dans quelques instants, André, comment on pourrait définir Vincent Gauthier ?
C'est un prof de gauche, je dis ça parce qu'ils ont des bons principes avec sa femme, etc. Ils n'ont pas envie, et puis ils ont qu'une envie, ils jouent au loto comme ça pour s'amuser, et puis ils gagnent. Mais c'était vraiment pas, ils ont fait ça comme ça sans espérer gagner quoi que ce soit. Et donc ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire de ça? Parce qu'on n'a pas envie que les enfants soient parasités ou que leur avenir soit orienté, dirigé par ce gain énorme. Donc ils veulent les protéger des dégâts ou des ravages que peut faire l'argent, ou des, bon, ils anticipent, mais l'argent c'est quelque chose évidemment de plus fort que tout, et qui fait que ça sert de révélateur à chacun, y compris chez les parents qui sont pas forcément, enfin ils sont d'accord entre eux, mais en face de leurs enfants et des réactions de leurs enfants, ils sont bien obligés de modifier un petit peu leur beau principe.
Merci beaucoup, André, d'avoir été avec nous. Je vois Pauline qui s'approche justement et qui va venir nous rejoindre. Merci infiniment et à très vite. On écoute un extrait. On revient juste après avec Pauline Clément.
Ils ont le droit de faire ça, là?
Combien vous voulez?
De quelle somme avez-vous besoin pour être heureux?
C'est compliqué.
Ah non, mais si c'est compliqué, vous pouvez refuser.
Non.
Ils vont passer une nuit épouvantable.
Ils m'ont donné ce que j'ai demandé.
T'avais demandé combien ?
100 000.
100 000 euros ?
100 000 euros !
Finalement, c'est assez jouissif, ce petit côté Rockefeller, sentiment de pouvoir, de domination même.
Tu fais une hypoglycémie.
Fais gaffe, oh !
150 millions ?
La loterie, mon cul.
Voilà, chers parents, en tout cas, vous allez voir, vous avez beaucoup ri un mercredi dans les salles. On a la chance d'avoir donc une des enfants de la fratrie. C'est Pauline Clément de la Comédie Française qui nous rejoint. Bonjour Pauline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, toujours un plaisir de t'avoir à nos côtés. Pauline, où tu joues le rôle d'un de ces trois enfants qui va donc apprendre, en pensant apprendre le pire, va apprendre le meilleur, quoique.
Oui. Oui, c'est ça, ils sont très très inquiets, ils ont reçu un mot de leurs parents qui leur disait « venez en urgence » et ils sont pas du tout au même endroit, il y en a un en Bretagne, un à Paris et l'autre, je sais plus trop où ils sont, ils prennent des trains en urgence, ils prennent une voiture et ils arrivent chez les parents. Heureusement, les parents sont là, a priori pas de mauvaises nouvelles à leur annoncer, une bonne, mais finalement qui corse un peu les choses.
Qu'est-ce qui t'a plu dans ce rôle, Pauline ?
Bah, le scénario, je trouvais ça super bien écrit. Emmanuel Patron qui a écrit avec sa sœur Armelle et qui a joué dans la pièce. Et Emmanuel, il a joué, je sais pas, il a dû jouer 400 fois la pièce. La pièce s'est jouée énormément. Et on sent que le texte est bétonné. Et quand je l'ai reçu, j'ai trouvé que c'était génial, plein de rebondissements. Et hyper, hyper bien écrit. Donc, puis il y avait tellement d'émotions à passer. Les personnages traversent tellement de choses que j'ai dit tout de suite, mais que je venais, en tout cas, que je passais le casting avec plaisir en espérant pouvoir jouer tout le rôle.
Je trouve que vous apportez un rythme tous les trois, que vous portez tous ensemble avec Thomas et avec Arnaud. On sent vraiment que vous ne faites qu'un et que le dynamisme des uns et des autres est vraiment égal. Vous avez dû vous porter les uns et les autres pour apporter vraiment cette égalité.
Oui, et en plus il y avait des scènes qui étaient assez longues, qui duraient 10 minutes. Mmh. Donc on s'est tout de suite soutenus, on s'est dit bon alors il y a des grosses scènes.
Il y a des beaux plans séquences, hein.
Ouais. Alors il y a de la coupe dedans, mais on les tournait d'un coup quoi. On faisait tous les chants d'un coup. Et on s'est vite soutenus, on s'est vite dit s'il y en a un qui se trompe, on est tous ensemble, c'est pas grave, on est tous dans le même bateau. On s'encourage. Moi il y avait ceux qui étaient inquiets, pas comme moi. Moi je suis plus lente à apprendre les textes, donc j'étais toujours inquiète de me dire oh, j'espère que j'ai pas vous foutre dans la merde. Et on s'est tout de suite soudés. Dès la première lecture, la famille existait, quoi. On se disait, tiens, je sens que cette famille, elle va marcher. On rigolait bien, mais c'était très sérieux, très bienveillant. Il y avait quelque chose qui passait tout de suite entre nous tous, les acteurs, quoi. Aussi amené par Emmanuel, qui met une sacrée ambiance. Je sais pas si André l'a dit, mais il crie action. Action! Coupez! J'adore! Il fait tout son film comme ça. Du coup, ça nous fait rire. On explosait de rire. On dit, mais des fois, on nous crie pas. Action, on va sursauter. Ok. Action, mais il peut pas s'empêcher. Et du coup, ça met une super ambiance. Il est très très joyeux.
Il nous a dit tout à l'heure quand même qu'il avait été obligé d'arrêter à un moment donné une scène tellement il rigolait lui de vous voir.
Ah oui, c'est possible. Je crois qu'au début, je crois qu'au son, il lui disait ne ris pas, on t'entend rire sur les prises. Il est très joyeux. En fait, il y a beaucoup d'enfantin dans le film, dans l'écriture. Et lui, pareil, il nous dirigeait comme on était tous un peu des grands enfants, quoi.
Comment pourrait le définir ton personnage, Pauline ?
En fait, elle a sa place dans la famille. Je trouve que des fois, quand on est dans une famille ou même avec un groupe d'amis qu'on a depuis longtemps, puis qu'on a une place, on peut plus s'en... On a une image de nous, on peut plus s'en sortir, quoi. Et elle, on la voit un peu comme la... Un peu celle qui n'ose pas trop dire les choses. Et du coup, elle reste dans cette place-là qu'on lui a un peu donnée et puis qu'elle est un peu figée là-dedans. C'est un peu la plus papa-maman. Elle se fait complètement financer ses études par ses parents. Et on sent que c'est un peu celle qui va souvent les voir, qui les appelle peut-être un peu plus et tout ça. En fait, petit à petit, on se rend compte qu'elle a aussi des choses à dire, qu'elle a aussi... C'est que si on lui fait monter un peu la folie à la tête, et son grand frère est fort pour ça, lui mettre dans la tête des petites idées, et ben elle part, elle peut partir en vrille.
Vous allez voir qu'avec ton personnage, l'expression « méfiez-vous de l'eau qui dort » n'a jamais aussi bien fonctionné.
C'est vrai, ouais, c'est ça, c'est ça.
Est-ce qu'il y a une scène particulière qui t'a marqué ?
En tout cas, pour moi, à jouer, c'est sûr, non, je veux pas spoiler, mais la scène...
Ça part un peu en sucette pour ton personnage ?
Voilà, où ça part un peu en sucette pour mon personnage, c'était... J'étais impressionnée, puis en plus, je devais être un peu dure avec mes parents. Et quand t'as des acteurs que t'admires, que tu respectes beaucoup, et que tu dois tout d'un coup, dans le jeu, leur rentrer dedans...
C'est dur de faire ça devant Miu Miu et André Dussolier.
Oui, c'est ça. Il y a toujours un moment où tu te dis, waouh, je suis dans mon personnage, mais dans la vie, j'aurais envie de dire pardon, je suis désolée. Mais du coup, il y a ce petit cap à passer quand t'es, ouais. Et puis, je crois que la scène, j'ai adoré faire la scène à table. Il y a une grande scène à table avec beaucoup de non-dits, beaucoup de silence, beaucoup de moments où on voit très bien ce qui se raconte dans leur tête, mais il n'y a pas tous les mots pour le dire, c'est avec des regards. Et ça, je trouvais ça super agréable à jouer.
Oui, vous devrez faire vos petites enveloppes à la fin du repas. Ouais. D'ailleurs, t'as vu, j'en ai pas raté une bouchée. Hein. Ouais. Chers parents, ça sent mercredi au cinéma, on va parler de tes projets, Pauline, puisqu'on te retrouvera d'ailleurs au mois de juillet pour le film de la Comédie française. Ouais. Alors, c'est vrai que quand on...
Il y a un autre entre-temps, c'est Une fille en or. Qui
elle n'arrête pas, Pauline.
Ouais, celui-là, il en a, je sais pas, ça s'est fait qu'il y en a un en février, un en avril, un en juillet.
C'est génial. Une fille en or, c'est ouais. De qui ?
Une fille en or, Jean-Luc Gaget, avec Arthur Dupont.
Et la Comédie française, au mois de juillet, tu reviendras nous en parler ?
Ouais.
Bon, merci beaucoup, en tout cas, et puis on s'est dit à très vite, du coup, oui. Pauline ?
Bah, à très vite, merci, c'est toujours un plaisir.
Chers parents, ça sort mercredi au cinéma, on ne le rate pas, c'est le film des patrons, comme je dis.
Voilà.
Exactement, merci Pauline.
Merci.
Oh les gros bâtards ! Ils ont filé un bourliche de voiturier !
On vous a donné 100 000 euros à chacun !
Vous êtes sous le choc, mais c'est normal.
On ne savait pas que vous aviez gagné le PIB du Burkina Faso, maman !
Je me demande si on n'a pas un petit problème d'autorité.
Allez, on ne bouge pas, on parle dans quelques instants de veto de campagne avec Amélie Jolivelle, la vétérinaire qui sera à l'affiche de ce très beau documentaire Ciné France 5 demain soir. Et puis Florence Coste à l'affiche de l'art du crime ce soir sur France 2 est avec nous dans une poignée de secondes. À tout de suite.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant. À tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook. Chut, on écoute la télé.
On a des rêves, des idées plein la tête. Ça nous ronge, on en crève de passer du songe à la fête.
Alors on s'arrête, jamais rien qu'on achève. Changer tout, changer d'air, mettre son monde à l'envers.
On pourrait partir pour une seconde vie. Et pour celle-ci, adieu tant pis. On pourrait partir loin si on a envie. Et pour le reste, adieu tant pis. 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 Adieu tant pis.
en avoir l'air. Si on faisait tout pour se plaire.
Alors on trace et puis on lâche ce qu'on était hier. Allez viens on fait tout pour se rendre fier.
On pourrait partir pour une seconde vie. Adieu tant pis. Adieu tant pis. Adieu tant pis.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute On Écoute La Télé. Chute On Écoute La Télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé est consacré à l'art du crime qui revient ce soir pour une toute nouvelle enquête et une nouvelle saison inédite avec toujours aux commandes Nicolas Gobbe, Eleonore Bernheim et en guest ce soir Pierre Perrier, Aude Candela et Florence Coste qui nous rejoint dans notre émission. Bonjour ma chère Florence.
Bonjour.
Je suis très heureux de t'avoir avec nous parce qu'évidemment le grand public t'a connu énormément grâce évidemment aux comédies musicales et à Ici tout commence avec le rôle de Laetitia Rigaud que tu as incarné pendant 5 années et que maintenant tu continues à incarner aussi de temps en temps. Et puis là, eh bien, c'est une petite incursion dans l'art du crime qui est consacrée à Cézanne que l'on va découvrir ce soir sur France 2. Tu connaissais la série avant ou pas déjà?
Alors, je connaissais la série, j'en avais beaucoup entendu parler mais je n'avais pas vu d'épisode jusqu'à ce que je commence à travailler dessus. Et tout le monde me disait, mais j'adore cette série, c'est trop bien que tu bosses dessus et tout. Et donc j'ai découvert, j'ai vu et je comprends que les gens soient aussi enthousiastes parce que je trouve que c'est vraiment une super série, que leur duo fonctionne hyper bien. L'art, en fait, dans l'enquête, c'est hyper bien amené et que ça apporte vraiment quelque chose. Et du coup, c'est super. J'ai découvert il y a quelques jours l'épisode et j'ai ri, j'ai été touchée. Je trouve que l'enquête se suit bien aussi. Enfin, vraiment, j'étais très satisfaite de voir ce résultat.
Ben c'est vrai que c'est très ciselé et on apprend plein de choses en même temps. Et là, ben évidemment, cet épisode va être dans la même lignée puisqu'on va y retrouver une professeure de dessin qui est une grande admiratrice de Cézanne qui va être assassinée dans son atelier parisien au moment même où son mari, lui, s'est rendu à Aix-en-Provence en croyant avoir trouvé le point de vue idéal sur la montagne de la Sainte-Victoire qu'il souhaite évidemment peindre. Et le capitaine Antoine Verlet, l'historienne Florence Chassagne vont faire le rapprochement entre ce meurtre et l'œuvre du célèbre artiste provençal et cette enquête va les mener jusqu'à Aix-en-Provence où ils vont retrouver ton personnage Aline Costa. Alors, est-elle mêlée à cette affaire? En tout cas, on va s'apercevoir qu'elle est plutôt plus proche qu'il n'y paraîtrait du mari justement de la femme assassinée, de la professeure assassinée. Donc voilà, c'est ce qu'on va découvrir sur plein de fonds aussi de sujets importants, de sujets de société comme le viol, les violences faites aux femmes aussi. Il y a plein de choses qui vont venir, hein.
Ouais, on explore plein de choses. Le personnage que je joue est haut en couleur, cash, avec un gros tempérament. Donc elle tient tête aux flics dans un premier temps, puis on va voir un côté plus vulnérable ensuite. Donc il y avait beaucoup de couleurs à jouer.
Un peu de temps finalement en plus.
Ouais, en peu de temps, mais un vrai personnage incarné et plein de couleurs et puis surtout des partenaires qui ont été très accueillants, ce qui est toujours important quand on arrive pour quelques jours sur un projet qui est déjà lancé. Je connais bien ça vu que sur ITC on accueillait aussi des guests de temps en temps et c'est hyper important de se sentir bien accueilli. Enfin voilà, et donc c'est un vrai plaisir avec eux et puis je trouve qu'ils ont un duo qui fonctionne à merveille et du coup c'était super de pouvoir jouer avec eux.
Et puis c'est vrai que la comédie évidemment dans cet épisode va être présente puisque vous allez voir que le duo va se transformer un peu en trio puisque pour les fans d'Antoine Verlet ils vont pas être déçus. Nicolas Gobbe va se retrouver face à son double mais on vous en dit pas plus. Vous allez voir si ça s'annonce
deux
savoureux.
Pour le prix d'un.
Exactement.
Et moi j'ai tourné la première scène donc où Nicolas était dans son autre personnage donc il découvrait tout ça et c'est passionnant en fait pour un comédien de pouvoir jouer ça et en même temps c'est un gros défi quoi. Et je trouve que ça fonctionne super bien.
Exactement. Si vous avez envie de voir Nicolas Gobbe avec des cheveux, rendez-vous ce soir 21h10 dans l'art du crime sur France 2. L'épisode est déjà en ligne sur France.tv, bien évidemment. En tout cas, tu garderas un bon souvenir du coup de ce tournage.
Ah ouais, j'ai adoré. J'ai adoré. La réalisatrice était super aussi. Elle était hyper sensible au jeu. Donc elle était vraiment dans l'accompagnement. Donc c'était vraiment beaucoup de plaisir.
Tu comprends du coup qu'aujourd'hui on est rendu à plus de 10 saisons, ça fait plus de 10 ans que l'art du crime existe et que le public soit toujours au rendez-vous.
Ouais, et que ce soit toujours aussi bien, avec autant de fraîcheur, en fait, au bout de autant d'années, je suis assez admirative. Et je leur souhaite que ça dure encore longtemps, parce que ça marche super bien.
Exactement. Alors, moi, je vais m'intéresser aussi, bien sûr, à Florence Coste, comédienne, pour l'instant. On va parler de Florence Coste, chanteuse aussi, dans quelques instants. Alors,
ouais.
Ici, tout commence. Est-ce que t'y reviens de temps en temps pour notre plus grand plaisir? Et c'est vrai qu'à chaque fois, bah, du coup, ça crée un petit peu l'événement à chaque retour, comme ça.
Bah, c'est gentil. Moi, ça me fait trop plaisir. J'adore ce personnage et cette série. Je suis partie parce que j'avais besoin d'aller vivre d'autres aventures et, voilà, en quête de nouveaux rôles, de nouvelles personnes avec qui travailler.
Oui, et puis de te nourrir de d'autres personnages. Aussi.
Ouais, complètement. Mais ce personnage, je l'adore. Enfin, donc, dès que je le retrouve, c'est un peu une évidence. C'est comme si je rentrais à la maison et tout revient, tout revient naturellement. Je retrouve mes amis, que ce soit les comédiens, les techniciens. Donc, c'est vrai que de pouvoir y retourner comme ça de temps en temps, c'est assez idéal.
C'est vrai que finalement, Laetitia et Kelly se sont imposés très très vite. Je sais pas pour combien de temps vous étiez prévus à la base, mais je crois que vous êtes arrivés dans la série, c'était pas prévu pour énormément de temps. Finalement, vous êtes restés 5 ans. C'est énorme.
Bah oui, les productrices m'ont dit que, en tout cas, le personnage de Laetitia était pas censé prendre autant d'ampleur que ça, et qu'en fait, les auteurs avaient été inspirés par ce qu'on faisait des scènes qu'ils nous donnaient. Et
c'est, faut dire que t'as amené beaucoup de comédie aussi, qui a fait du bien.
Ouais, moi j'adore ce personnage parce que elle peut tout faire en fait, elle est hyper surprenante tout le temps et en même temps elle peut être sensible aussi, donc elle peut être sur des intrigues plus dramatiques aussi, donc il y avait aussi pas mal de possibilités. Et je pense que c'est ça qu'ils ont exploré. Et voilà, je suis fière de ce personnage, de l'avoir amené à moi, d'être allée vers lui, enfin d'avoir fait ce travail sur la longueur que permet la quotidienne de vraiment construire un personnage. Et donc c'est un personnage pour lequel j'ai énormément de tendresse.
Et alors, elle revient bientôt Laetitia ou pas?
Eh bien, j'ai tourné tout le mois de janvier, donc je crois que c'est mi-mars qu'elle revient pour une intrigue.
Ah, bah on a déjà hâte, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on adore sa sensibilité, on adore son sens du rythme de la comédie, et puis sa mauvaise foi aussi, on l'adore, sa mauvaise foi, Laetitia Rigaud.
Je ne vois pas du tout de quoi tu parles.
Bon, eh bien écoute, ça c'est une très bonne nouvelle. Kelly sera de retour aussi ou pas?
Pas cette fois, non.
Pas cette fois.
Non, non, avec Axel, on se voit dans la vraie vie, parce qu'on est très amis, donc... On se lâche pas, comme avec beaucoup d'autres qui sont partis de la série, ça a vraiment créé des liens très forts.
Bah oui, c'est une famille.
Mais sur cette intrigue, c'est vraiment devenu des gens très importants pour moi, donc c'est beau quand des aventures professionnelles donnent lieu à ça. Et voilà, sur cette intrigue, elle est pas là, elle m'a manqué un peu d'ailleurs. Mais
elle est restée en Bretagne, quoi.
Bah, elle est restée en Bretagne, ouais.
Bon, t'as vu,
j'adore la Bretagne. Mais grave.
Bon, on va parler de Florence Coste, chanteuse aussi, parce que c'est vrai que tu as tourné un petit peu partout en Belgique et en France avec les acteurs TV en concert. Et c'est vrai que ça, c'est souvent quelque chose qui est un peu plus méconnu quand on vous adore dans vos personnages de fiction. Et bien, c'est souvent que vous avez aussi, alors surtout toi en plus, parce que t'as fait de la comédie musicale, mais c'est aussi qu'on vous découvre sous un nouveau jour, pour le coup, avec la musique. Mm-hmm. Et ça, je sais que c'est une partie importante de ta carrière, la musique aussi.
Bah, c'est vraiment ce qui a lancé un peu ma carrière, parce que moi, mon rêve de petite fille, c'était d'être chanteuse, et c'est ça qui m'a amenée à faire de la comédie musicale, à découvrir le jeu, donc...
The Voice.
Donc oui, et The Voice. Oui, oui, et je trouve que c'est un autre moyen d'expression, et j'aime bien le lier à ma carrière de comédienne, que ce soit les concerts, c'est trop bien, parce qu'on pouvait aller au contact du public, les rencontrer dans la vraie vie, qui a une énergie quand on chante des chansons. C'est très joyeux comme énergie à partager. Et après, j'aime bien aussi, quand je fais des pièces de théâtre, souvent on me demande de chanter. Donc c'est une autre corde à mon arc que je peux utiliser de temps en temps et que j'aime beaucoup.
Ah bah c'est un vrai plus, hein, clairement.
Ouais, ouais.
Bon,
ça permet d'ouvrir plein de projets.
Exactement, d'ouvrir des choses différentes. En tout cas, on te retrouve avec grand plaisir ce soir à partir de 21h10 dans l'Art du Crime sur France 2 pour ce tout nouvel épisode qui s'appelle Mourir avec Cézanne, et on te retrouve bientôt dans Ici tout commence pour ton grand retour en mars pour une intrigue événement. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Florence.
Merci à toi et puis bon visionnage ce soir alors.
Exactement, on t'embrasse fort et t'embrasse Axel pour nous, Axel Daudier qu'on embrasse aussi. Merci.
Ça marche, je lui fais des bisous.
À très vite.
Au revoir.
Inédit sur France Télévisions.
Elle était professeure de peinture.
Pour l'instant, si je comprends bien, on n'a pas de mobile, pas d'ADN et pas d'arme du crime.
Exactement.
Votre compagne a été étranglée, puis poignardée, comme sur ces deux tableaux. Troublant comme coïncidence, non?
Oui, là, ses cheveux.
Ouais.
Ce type est obsédé par Cézanne, ça c'est sûr.
Pardon, mais je comprends rien.
Il pense que Cézanne était comme lui et qu'il avait des pulsions meurtrières et que c'est grâce à la peinture qu'il s'en est sorti. La thérapie par l'art.
D'accord, mais qu'est-ce que je vais aller raconter au proc, moi? Qu'on a un tueur qui risque de récidiver parce qu'il fait de l'art-thérapie?
Elle a l'art, il a la manière. L'art du crime,
lundi soir à 21h10 sur France.tv et sur France 2.
Et notre coup de cœur télé est consacré à Veto de campagne à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui même du Salon de l'Agriculture. Demain soir, France 5 diffusera ce très joli documentaire réalisé par Marianne Carfriden qui dresse le portrait d'Amélie Jolivelle, une vétérinaire rurale de Châteaubriant, Loire-Atlantique. Et Amélie est avec nous pour en parler. Bonjour Amélie.
Bonjour.
Alors, le documentaire est déjà en ligne sur France.tv. Si au moment où vous nous écoutez, on vous a donné ultra envie de le regarder dès maintenant, vous pouvez bien sûr le découvrir en avant-première sur la plateforme de France Télévisions. Mais déjà, Amélie, la première chose que j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui vous a décidé à vous laisser suivre comme ça par Marianne dans votre métier qu'on va découvrir peut-être pour certains, celui d'une vétérinaire rurale?
Finalement, ce qui nous a décidé, je dis nous parce que on s'est engagé collectivement un peu à se laisser suivre avec mes associés. Ce qui nous a décidé, c'est le goût pour l'agriculture et particulièrement pour l'élevage de Marianne, sa curiosité et finalement son positionnement. Donc on a choisi de lui faire confiance. Elle aime l'élevage et elle avait envie de montrer notre lien avec nos clients et avec évidemment leurs animaux. C'est vraiment sa posture d'écoute et sa posture quand même d'affection pour le monde de l'élevage.
Alors Amélie, vous faites partie d'une clinique vétérinaire, vous êtes 4 associés, vous vous déplacez, vous avez un lien très très fort pour le coup avec tous les éleveurs de la région, puisque vous le dites vous-même, c'est ça que j'ai trouvé extraordinaire dans ce documentaire, c'est que vous allez les voir entre 20 et 30 fois dans l'année, et que vous dites que même les gens de votre propre famille, vous les voyez moins souvent, il y a vraiment un lien très fort qui se tisse avec eux.
Ben oui, en fait, ce lien, en fait, il a commencé, c'est historique, au cabinet de Châteaubriant. Il a commencé avec Jean-Marie, Nicole et Christian qu'ont développé un lien, enfin, quand ils ont construit leur cabinet, ils ont développé un lien assez fort avec les clients, avec leur histoire, progressivement, avec le fait de participer techniquement à l'élaboration de leur stratégie en ferme, à les écouter, à faire des formations pour nos clientes et nos clients. Et finalement, moi, quand je suis arrivée à Châteaubriant, on s'est mis dans ces chaussons-là, c'est-à-dire de savoir maintenir le lien, écouter leurs problèmes et participer à résoudre leurs problèmes au fil de l'année, quoi.
On parle vraiment de la rudesse du métier sous toutes ses formes, mais j'ai l'impression surtout aussi d'une vocation. Amélie, moi, ce qui m'a frappé avant tout, c'est de voir cette vocation. Vous êtes vraiment heureuse dans ce métier. Comme vous dites, vous ne changeriez pas vos bottes pour rien au monde. Et à la fois, vous êtes toujours là pour vos clients, même quand vous faites des crêpes, par exemple, le week-end et qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire le coup de son chien. Eh bien, vous accourez, vous laissez tout le monde en plan, mais vous accourez. C'est vraiment une vocation, ce métier, aujourd'hui.
Bah, c'est une vocation, ouais, je crois que j'ai compris, moi, finalement, assez tard, hein, parce que j'étais déjà en vie professionnelle, j'étais bergère quand j'ai compris ça, quand j'ai décidé de reprendre mes études et de soigner les animaux. Après, nous, on a quand même le privilège d'être plusieurs. Et donc, on a aussi des moments de répit, quoi. Hein, je veux dire, donc, on est plusieurs, on se partage la charge, en fait, de la permanence des soins. Et puis, autrement, tous les jours, on se nourrit de fait de résoudre des énigmes un peu en ferme, d'être tout le temps auprès et au chevet des animaux et auprès des clientes et des clients, plutôt professionnels, quoi. En l'occurrence, pour moi, quoi.
Amélie, est-ce que vétérinaire rural est un métier en danger aujourd'hui? Et le pire, c'est que, comme on le disait juste avant de prendre l'antenne ensemble, ça met en danger, en plus, d'autres métiers en cascade.
Oui, c'est ça. Enfin, métier en danger, je pense que il y a un enjeu au renouvellement et à la transmission de notre métier. C'est quelque chose qui, on le voit dans le film, hein, c'est pas simple et donc il faut se donner pour transmettre notre métier, créer les conditions en fait pour que les jeunes ils s'intéressent à ce monde professionnel-là. Et effectivement, on voit bien que nous, on est impacté. En fait, s'il y a moins d'élevage, bah, les vétos ont moins de travail ou leur distance à parcourir s'agrandit. Mais du coup, celui qui entretient les machines à traire, bah, c'est pareil, il est impacté. Celui qui répare les puits pour l'eau, pour les animaux d'élevage, bah, c'est pareil, il a beaucoup plus de routes à faire. Donc en fait, on est tous liés par le fait qu'il faut qu'on soit nombreux et denses pour assurer des services en élevage et que les exploitations, eux, aient une grande qualité de service à leur disposition pour pouvoir exercer sereinement leur métier.
Alors celle qui m'a beaucoup ému, c'est Lysandre. Elle est en train d'effectuer sa dernière année d'école vétérinaire. Elle a 27 ans, elle est prête à devenir véto. Elle en est même à quelques mois et elle est formée à vos côtés. Aujourd'hui, on découvrira évidemment et vous découvrirez en allant voir le film si elle va aller effectivement au bout de tout ça et devenir une vétérinaire rurale. Mais en tout cas, Lysandre incarne cette jeune génération qui découvre le métier.
Oui, elle incarne ça Et on a la chance, nous, d'être, de pouvoir accueillir des stagiaires tutoristes, c'est-à-dire ils peuvent faire leur dernière année au sein du cabinet Veto avec nous, et donc on peut être maître d'apprentissage, hein, si on veut, sur ces questions-là. Et Lisande, ben, elle fait partie des jeunes, là cette année, on a une autre jeune étudiante qui s'appelle Natacha, elle fait partie des gens à qui on peut transmettre, en fait, ce métier-là. Et on le fait dans un cadre privilégié, parce que, donc, elle est formée, elle est en alternance avec l'école, et chez nous, on peut lui montrer, lui transmettre, en fait, notre savoir pratique modeste, hein, mais en tout cas lui transmettre notre savoir pratique. Et l'idée, c'est plus facile de le faire comme ça parce que il y a un ensemble de chocs techniques à encaisser pour rentrer dans ce monde professionnel-là qui est la médecine des animaux en ferme. Parce que nous, nos éleveuses et nos éleveurs, ils ont un sacré niveau technique, hein. Donc en fait, il faut quand même bien armer nos jeunes professionnels pour entrer plus sereinement dans ce monde-là.
Alors j'ai l'impression que c'était un monde très masculin, le monde des vétérinaires de campagne, et qui se féminise de plus en plus.
Eh ben oui, alors c'est vrai qu'il y a plus de candidates que de candidats dans les écoles véto. Auparavant, c'était quand même, oui, bien dominé la médecine rurale par les hommes. Et puis, mais nous, on vole la place de personne, hein. On y rentre parce que, en fait, il y a de la place, les filles prennent leur place, elles exercent leur profession comme les autres, quoi. Je dis pas, hein, on est un peu juste sans doute des fois en force, mais on arrive à trouver plein de moyens techniques pour bien exercer notre art.
Et il faut dire que des fois la confiance vis-à-vis des éleveurs est difficile des fois à acquérir, hein, justement, peut-être plus quand on est une femme, justement, c'est ce que vous disiez dans le reportage.
Ouais, sans doute, hein, c'est pas évident au début. Au début, on a plein de handicaps, hein, petites femmes, et puis en plus jeunes. Mais petit à petit, en fait, il faut s'accrocher un peu et puis se jeter en fait dans le tourbillon technique. Et puis on acquiert la confiance des éleveuses et des éleveurs pour réussir à exercer notre métier correctement.
Alors Amélie, il y a aussi un pan de votre métier qu'on découvre en voyant aussi ce film, c'est le côté psychologique. C'est des fois très rude parce qu'il y a des bons moments, mais il y en a aussi des difficiles, des décisions à prendre qui sont très compliquées quand on a en plus éleveur en face de soi. Comment on arrive à se mettre une barrière? Comment on arrive justement à gérer cette situation psychologique qui des fois est difficile avec les animaux?
C'est difficile un peu. Nous, la façon dont on gère ça, dans notre petite paroisse là, c'est que en fait, on est très soudés. On est une équipe qui est forte, hein, et donc pour encaisser un peu les émotions du quotidien qui sont pas évidentes tout le temps à vivre, on partage ça à plusieurs. Et ça, c'est la force du collectif Veto quand même, de l'équipe, quoi. Et puis on essaye de s'accrocher. Comme on maintient des histoires longues, on essaie de s'accrocher aux bons moments qui ont jalonné notre relation avec le client qu'on voit au moment où on a des choses pas faciles à faire. Et en fait, je trouve que ça passe. Donc il n'y a pas vraiment de grandes barrières, hein. Enfin, en tout cas, il y a juste des émotions à gérer. Et c'est vrai que les collègues, ça aide beaucoup, quoi.
Bon, en tout cas, on va découvrir ce magnifique reportage déjà en ligne. On le disait sur France.tv, il sera diffusé donc demain soir à partir de 21h05 sur France 5. Il sera suivi du magazine C'est ce soir, présenté par Karim Rissoli autour de la question agricole à l'occasion de l'ouverture aujourd'hui du Salon international de l'agriculture qui ouvre ses portes jusqu'au 1er mars prochain avec de nombreux problèmes à gérer comme l'épidémie de dermatose nodulaire en ce moment qui sévit dans notre pays. Merci beaucoup, en tout cas, Amélie, d'avoir été avec nous.
Merci à vous.
Et on écoute tout de suite la bande-annonce Veto de campagne demain soir 21h05 sur France 5.
Il est dit sur France Télévisions.
Allô, cabinet Veto ?
Oui.
Comment va la vache maintenant ?
C'est quand même un sacré privilège de soigner.
Ça fait combien de temps, David, que ça dure cette histoire-là ?
Il n'y a pas de petits clients. Il n'y a pas de petites demandes. Elle est énorme, la tête. Ah, c'est le cœur. On a été en contact avec de la très grande détresse agricole.
Ce sera à refaire, je ne sais pas si je ferai ce métier-là.
Nos destins, ils sont intimement liés. S'il n'y a plus d'élevage, il n'y a plus de veto.
Veto de campagne, déjà disponible sur France.tv et demain soir à 21h05 sur France 5. Et juste après, retrouvez un C'est ce soir spécial avec Karim Rissouli.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Et lundi prochain, dans Chute, on écoute la télé, nous aurons le plaisir de recevoir Nicolas et Bruno, les co-réalisateurs du film Alter Ego, une comédie où vous allez voir double de Laurent Lafitte. Et puis Papa Malgré Lui également sera à l'honneur avec Stéphane Drouet, le producteur, ainsi que l'actrice Maud Baker qui sera notre invitée. Et puis spécial rural avec Édouard Bergeon qui sera avec nous, avec son producteur Christophe Rossignon et la star du documentaire Jérôme Bail sera également notre invité. Et puis Marie Tapernou, Marie au premier regard, notre experte, sera également des nôtres.
Le rendez-vous des stars, c'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Hey, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de la quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arôme, sans colorant, sans conservateur. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.